VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 12 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Martin Fayoulou a été désigné candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Nous aurons des réactions.
Au Gabon, la présidence reconnaît implicitement la gravité de l'état de santé du président Ali Bongo, hospitalisé le 24 octobre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite.
À Madagascar, l'ancien président Ange Rajoel reste en tête devant son rival Marc Ravalomanana, selon les résultats partiels publiés hier.
À Paris, le président Emmanuel Macron a dénoncé hier le nationalisme à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'armistice.
Échange de tirs dans la bande de Gaza lors d'une opération israélienne. Un soldat israélien et 6 Palestiniens tués.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
RDC, Martin Fayoulou a été désigné par ses pairs, réunis à Genève, candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Il a recueilli plus de voix que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui étaient pourtant donnés favoris. Cet acteur politique de 62 ans, élu député national de Kinshasa en 2011, défendra donc lors de ce scrutin le programme commun de la coalition de l'opposition dénommée Lamouka, c'est-à-dire Réveille-toi. Des détails avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je ne suis qu'un porte-parole de ce combat pour la liberté et la démocratie que nous avons engagé depuis de très longues années et dont nous sommes à l'aboutissement, a déclaré dimanche à Genève Martin Fayoulou, 62 ans, aussitôt après l'annonce de sa désignation comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018. Et de poursuivre, je cite, « Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, de mes collègues, de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant », fin de citation. Mais le choix surprenant de Fayoulou crée déjà des remous au sein de l'opposition. Adam Bombolé, un proche de Moïse Katumbi, ne voit pas les militants de l'UDPS et de Félix Tshisekedi voter pour Fayoulou. Pour lui, le choix du candidat commun consacre la défaite de l'opposition à la présidentielle de cette année. L'autre réaction est celle d'Augustin Kabuya, secrétaire général adjoint de l'UDPS Tshisekedi, qui, sur un ton énervé, a dit, je cite, « Nous ne nous sommes pas battu pendant 36 ans pour qu'on nous impose un choix. » Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Gabon, la présidence a annoncé hier que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était, je cite, « en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques ». Fin de citation. Libreville reconnaît ainsi, de manière implicite, la gravité de son état de santé. Thomas Kamulindi fait le point.
Le président Bongo, 59 ans, a été hospitalisé le 24 octobre dernier à Riyad à la suite d'un malaise et aucune information n'avait été communiquée officiellement depuis 2 semaines, alimentant les folles rumeurs. Le conseil des sages du parti présidentiel avait même appelé le gouvernement à communiquer judicieusement pour rassurer l'opinion. Le porte-parole de la présidence, Ike Nguoni, est finalement sorti du silence dans une déclaration se voulant rassurante, mais qui a confirmé, sans le dire directement, que le chef de l'État restait dans un état de santé fragile. Selon M. Nguoni, un saignement a justifié une prise en charge médico-chirurgicale en secteur hautement spécialisé. Son état de santé s'est sensiblement amélioré, a déclaré le porte-parole, qui n'a pas précisé de quelle maladie était ou avait été victime le président Bongo. D'après M. Nguoni, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions et les institutions fonctionnent parfaitement dans le strict respect de la Constitution. Selon une source étrangère proche du président Bongo, celui-ci a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, cause de son hospitalisation en Arabie Saoudite.
À Madagascar, 4 jours après l'élection présidentielle, l'ancien président de la transition, Ange Rajoel, reste en tête devant son rival, Marc Ravalomanana, selon les résultats partiels publiés hier par la CENI, la commission électorale du pays. Des détails avec Abdulaziz Adili Toro.
avec 7597 bureaux de vote traités sur les 24852 que compte le pays, soit 30,57%. And Rajuel reste en tête avec 40,87% des suffrages, suivi par Marc Ravalomanan, 35,99%. Au vu de la dégringolade du score du candidat Ravalomanan, son équipe va effectuer une visite à la commission électorale ce lundi. Son directeur de campagne a déjà dénoncé une tentative de fraude et de corruption de la CENI. Le président sortant, Ir Radjo Narmampian, quant à lui, remonte lentement avec 7,01%. Il a aussi dénoncé de nombreuses irrégularités de vote. Ces accusations ont été démenties par la CENI. Le code électoral malgache impose aux candidats un second tour si aucun d'entre eux n'obtient plus de 50% des suffrages au premier tour. La grande île est régulièrement déstabilisée par des crises politiques et post-électorales depuis son indépendance de la France en 1960.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Observation officielle aujourd'hui ici aux États-Unis du Veterans Day, la journée des anciens combattants qui tombe le 11 novembre chaque année a été donc commémorée hier à travers le pays. Hommage est rendu à cette occasion au sacrifice de millions d'hommes et de femmes qui ont servi dans les forces armées américaines au prix de leur vie souvent. De Paris, le président Donald Trump a salué dans un tweet ces héros de la nation américaine.
Monsieur Trump participait hier en France en compagnie de plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, dont son homologue russe Vladimir Poutine, à la commémoration en grande solennité à Paris du centenaire de l'armistice, l'occasion pour le président français Emmanuel Macron de dénoncer le nationalisme. Le point avec Jacques Aristide.
Plusieurs chefs d'État ont profité de cette journée symbolique pour mettre en garde contre les risques de guerre, ravivés selon eux par la remise en cause croissante du modèle multilatéral, socle des relations internationales depuis l'après-guerre. Emmanuel Macron a mis en avant le patriotisme et dénoncé le nationalisme évoqué récemment par le président Donald Trump. Un forum sur la paix a également été organisé pour marquer ces commémorations en France. Lors d'un déjeuner au palais de l'Élysée, le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un échange informel assez long sur les dossiers diplomatiques mondiaux. Le président Trump s'est rendu au cimetière américain de Suresnes pour rendre hommage aux Américains tombés au champ de bataille. Auparavant, environ 1500 personnes s'étaient réunies dans le calme à Paris pour dénoncer sa présence. En revanche, trois militantes féminines ont réussi dimanche matin à forcer la sécurité sur les Champs-Élysées pour s'approcher du convoi du président Trump avant d'être interpellées.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a coupé court à sa visite à Paris où il assistait lui aussi à la commémoration du centenaire de l'armistice. La raison, un de ses soldats, membre des forces spéciales israéliennes et six Palestiniens ont été tués hier lors d'échanges de tirs avec des combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Auparavant dans la journée, les brigades Ezzedine el-Qassam, branche armée du Hamas, avaient fait état d'une opération des forces spéciales israéliennes qui avaient tenté de s'infiltrer dans le sud de Gaza à bord d'un véhicule civil. De leur côté, des sources sécuritaires palestiniennes ont affirmé que l'armée israélienne a également mené des frappes aériennes dans le secteur. Initialement, les Israéliens avaient, eux, parlé d'un échange de tirs dans un communiqué succinct.
En Californie, les deux incendies qui ravagent cet État de l'Ouest ont fait 31 morts et on s'attend à un alourdissement de ce bilan alors que les secouristes atteignent de vastes régions dévorées par les flammes. Selon le shérif de la Californie du Nord, 228 personnes sont toujours portées disparues. La trentaine de morts concerne le feu baptisé Camp Fire au pied des montagnes de la Sierra Nevada. Dans le sud de l'État, autour de Los Angeles et de Malibu, l'incendie Wolsey Fire a fait pour sa part deux morts trouvés dans un véhicule sur une voie privée. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet État de l'Ouest des États-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque africaine de développement va consacrer 208 milliards pour 230 projets de développement en Afrique dans les domaines de l'énergie, les infrastructures, les transports et services publics, l'industrie, l'agriculture, les technologies de l'information, les télécommunications, l'eau et l'assainissement, les services financiers, la santé, l'éducation et l'hôtellerie, le tourisme, le logement et l'aviation. L'Afrique est la deuxième destination des investisseurs dans le monde et 5 des 10 économies les plus dynamiques au monde se trouvent en Afrique. L'Ouganda lancera un appel d'offres pour des licences d'exploration du pétrole et de gaz naturel en mai prochain. Le français Total et le chinois Sinopec ont l'intention de commencer la production en 2021. Kampala veut démarrer l'extraction du brut en 2020. L'Ouganda a découvert des gisements d'hydrocarbures équivalents à 6,5 milliards de barils il y a 12 ans dans le bassin du Rift Albertine, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. La production a été retardée en raison de désaccords avec les compagnies pétrolières sur la stratégie de développement des champs et des différends fiscaux. Au Soudan, la mine Block 14 pourrait produire annuellement 228 000 onces d'or sur ses 7 premières années d'exploitation. La mine Block 14 hébergerait 79,94 millions de tonnes de réserves probables.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Copa Libertadores, Boca Juniors et River Plate se sont quittés dos à dos.
Oui, la première manche de la finale de cette compétition s'est soldée sur un nul spectaculaire de 2 buts partout entre les deux grands du football argentin, Boca Juniors et River Plate. La finale retour du 24 novembre prochain va être un grand moment de football dans cette Copa Libertadores.
Direction le Cameroun avec la visite d'inspection de la Confédération africaine de football dans le cadre de l'organisation de la CAN 2019.
Une CAN 2019, on le rappelle, qui passe de 16 à 24 équipes. Une visite qui a démarré hier pour s'achever jeudi. Le but est de savoir si le Cameroun sera en mesure d'accueillir cette compétition en juin prochain. Soulignons qu'il y a beaucoup de retard dans les travaux, les infrastructures, les stades, bref, un véritable examen de passage de Yaoundé. Emmanuel Junta pour plus de précisions.
Les sites d'Olembe, en zone périphérique de Yaoundé, Garoua, dans le nord, et Bafoussam dans la région de l'ouest, sont concernés par cette ultime visite de la mission d'inspection de la CAF. Le gouvernement camerounais a opté de faire bonne figure pour convaincre la délégation que conduit le Ghanéen Anthony Bafoué sur l'état d'avancement des travaux. L'équipe des inspecteurs de la CAF a touché la première réalité du terrain hier au stade d'Olembe qui devra abriter les matchs d'ouverture et de clôture de la compétition. Le stade d'Olembe a une capacité d'accueil de 60 000 places assises. La pose des chaises sur les gradins y est effective à 70%. La mission d'inspection de la CAF se rend ce lundi à Garoua, mardi à Bafoussam et mercredi à Douala. 34 stades, parmi lesquels 7 devant accueillir la compétition, sont en phase terminale, a précisé le ministre camerounais des Sports, Bidoung Pat, au cours d'une conférence de presse vendredi dernier. L'État camerounais a sollicité un emprunt obligataire de 107 milliards de francs CFA pour attraper les retards sur les chantiers. Yaoundé, Emmanuel Jeloumtap, VOA Afrique.
En attendant la phase finale, on va assister à la 5e journée des éliminatoires de cette fin de semaine. Madagascar va affronter le Soudan avec Jérémy Morel.
Le défenseur central de Lyon figure dans la liste de 22 joueurs convoqués par le sélectionneur des Barrières, Nicolas Dupuis, pour la réception du Soudan dimanche prochain. Jérémy Morel avait récemment annoncé sa décision de jouer pour Madagascar. Un match sans enjeu, puisque Madagascar est déjà qualifié et que le Soudan est éliminé. Le technicien français en a donc profité pour faire tourner son effectif en convoquant 10 locaux.
Basketball avec la CAN FIBA Africa Cup au Togo, le Mali conserve son titre chez les dames et la Côte d'Ivoire succède au Nigeria chez les hommes.
Oui, deuxième sacre continental d'affilée pour le Mali. À Lomé, les Maliennes ont dominé en finale la RD Congo 19-13. La troisième place est revenue au Togo qui s'est imposé devant le Nigeria 19-17. Chez les hommes, la Côte d'Ivoire succède au Nigeria en battant l'Ouganda 14-6. 6. Le Nigeria a fini 3e en remportant son match 21-19 devant la RDC. La NBA pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Charlotte Détroit 113-103, Houston contre Indiana 115-103, victoire d'Orlando sur New York 115-89, Milwaukee bat Denver 121-114 et Boston battu par Portland 100-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la désignation par ses pairs de Martin Fayulu, député national de 62 ans, élu de Kinshasa en 2011, comme candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Mais à Kinshasa, certains acteurs politiques de l'opposition s'oppose déjà à ce choix et une partie de la population s'interroge sur son poids politique en tant que challenger d'Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de la coalition au pouvoir. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Afin de faire aboutir son combat politique, la coalition d'Amouka a choisi par vote M. Martin Fayulu Madidi comme candidat commun d'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. L'Amouka annonce l'organisation imminente d'un meeting populaire à Kinshasa pour présenter au peuple congolais le candidat d'opposition.
Après 48 heures d'énormes attentes, l'annonce est finalement tombée de Genève en Suisse où ils étaient réunis depuis le vendredi dernier. Les sept leaders de l'opposition ont porté leur choix à la surprise générale sur Martin Fayulu Madidi, alors que c'est Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui étaient donnés favoris pour porter le projet commun de la coalition appelée Lamuka Entendez Réveille-toi à la présidentielle du 23 décembre courant. Le désormais candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu, a pour sa part salué le choix de ses collègues et rappelé qu'il compte sur l'appui de tous pour remporter la bataille électorale de cette année.
Merci l'éternel Dieu Tout-Puissant et aussi mes collègues leaders de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, professeur Matungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Je remercie aussi le peuple congolais. Moi, je ne suis qu'un porte-parole de ces combats pour la liberté, pour la démocratie que nous avons engagés depuis de très longues années et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant.
Au chapitre des réactions, la plus virulente et opposée à cette désignation de Fayulu est venue d'un cadre de l'UDPS, Tshisekedi, le secrétaire général adjoint Augustin Kabuya.
Je pense que l'UDPS s'est battu pendant 36 ans. Souvent, les gens nous reprochent de mener notre combat seul. Chaque fois quand l'UDPS accepte de marcher avec qui que ce soit, nous avons été toujours victime de la trahison. Ce qui vient de se passer n'est pas différent de la situation de San City. Nous n'accepterions jamais qu'on nous impose un autre Zaïdi Ngoma. Nous nous sommes battus pendant 36 ans. Ce n'était pas pour avoir un candidat commun.
De son côté, le responsable de la cellule de communication de la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo, prend acte de la désignation de Martin Fayulu et se refuse à ce stade à d'autres commentaires. Dans les rues de Kinshasa, les personnes interrogées par VOA Afrique ne sont pas convaincu qu'au vu de son poids politique, Martin Fayulu tiendra tête au candidat de la coalition au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary.
C'est déjà une très bonne chose comme l'opposition a pu sortir un candidat unique par rapport au candidat du FCC. Mais en toute franchise, bon, c'est mon avis, mais je pense que Martin Fayulu n'est pas l'un des poids lourds de l'opposition pour qu'il puisse être candidat unique devant la majorité qui est déjà prête et l'opposition a tergiversé jusqu'à ce moment. Donc je ne pense pas vraiment qu'il fera le poids le 23 décembre aux échéances. séquence électorale.
Déjà que je ne le connais pas, je vois déjà que la propagande pour Martin Fayulu n'est pas assez propagée. Donc il veut dire qu'il ne va pas faire long feu. Et c'est très décevant de la part de l'opposition de faire ça à ce moment ici. Je trouve qu'il n'est pas un gros poids lourd vraiment. Nous tous on s'attendait de Félix. Je ne crois pas qu'il passera.
Les choix de Fayulu ne vaut pas la peine par rapport aux enjeux de l'heure face aux candidats du FCC. De par les assises de son propre parti, mais aussi son cursus.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
L'opposition togolaise ne participera pas aux élections législatives annoncées par le gouvernement pour le 20 décembre. Son leader, Jean-Pierre Fabre, estime que la CEDEAO veut se servir de la tenue du scrutin pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection crédible et transparente, a dit Jean-Pierre Fabre, qui réagit ici au micro de Irénée Herman-Oungbo à l'annonce du gouvernement togolais.
Je crois que le gouvernement est dans une logique de provocation parce qu'il sait très bien que les élections normales, crédibles, transparentes, démocratiques ne peuvent pas avoir lieu là maintenant le 20 décembre. Je ne comprends pas comment on peut convoquer le corps électoral alors que le fichier actuel dont nous contestons la mise en place, parce que nous n'avons pas été associés à l'opération, que ce fichier-là, il n'est même pas encore dépouillé de tous les doublons, de tous les problèmes. Il est en train d'être audité. Le fichier n'est pas encore mis en place.
Ce sont les médiateurs, les États de la sous-région, qui ont suggéré que les élections se tiennent en décembre.
Ces chefs d'État qui ont suggéré cette date, ils organisent des élections chez eux. Ils savent très bien que si on veut organiser des élections libres, transparentes, équitables, démocratiques, crédibles, on exécute d'abord les tâches nécessaires.
L'opposition que vous représentez n'a pas voulu siéger à la commission électorale. Est-ce que la politique de la chaise vide paye-t-elle dans ce cas précis?
Il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Nous avons fourni notre liste dans les délais. Et on a attendu 5 semaines. Parce qu'il y avait un blocage qui était dû au fait qu'un parti politique qui a signé un accord de partage de pouvoir avec le régime en place revendique une place, alors qu'il ne fait pas partie du dialogue.
Alors, allez-vous participer au scrutin ou
Pas du tout. On ne participe pas à des élections parce qu'il y a une date qui est fixée. Ça n'a aucun sens.
Quelles seront alors vos conditions pour participer au scrutin?
Il faut que tout soit clair. Parce que, excusez-moi monsieur, mais nous ne sommes pas dans le cadre d'élections ordinaires. Il s'agit d'une élection dont la CEDEAO veut user pour régler la crise togolaise.
Ne craignez-vous pas que les absents pourraient avoir tort ici éventuellement?
C'est ce qu'on nous a toujours dit depuis des années, depuis des décennies. Et c'est pour ça que nous participons à des élections qui n'en valent pas la peine. Je pense que si nous disons que il y a des conditions à régler pour que nous puissions participer à ces élections, il faut qu'au moins pour une fois, on nous écoute.
C'était Jean-Pierre Fabre, joint à Lomé par Irénée Herman-Oungbo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les populations subissent les méfaits de 45 jours de coupure d'électricité qui ne prendront fin que le 5 décembre. Les autorités expliquent que ces délestages par la maintenance d'une centrale à Pointe-Noire. Brazzaville connaît en outre des pénuries d'eau et de carburant. Notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
C'est depuis le 21 octobre dernier que les Brazzavillois font face à d'intempestives coupures d'électricité. Ceux dont les activités dépendent du courant en souffrent le plus. Arsène Vembe tient un office d'informatique à Bakongo.
Je suis en train de faire des recettes soit de 2000 ou 1500 francs la journée, tandis que j'étais à 15 ou 60 et quelques mille. Et aujourd'hui, j'ai eu un marché, parce que je devais faire des tickets pour une grande manifestation. Je peux pas travailler parce que mon imprimante qui prend plus de courant ne peut pas travailler.
Ici à Wenze, les plaintes sont nombreuses, surtout lorsqu'il s'agit de pénurie d'eau et de carburant.
Aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne vous dit rien. Le prix d'essence, par exemple, à la pompe, c'est vendu à 595 15 et à la cité, c'est à 2000 francs le litre. Que peut faire quelqu'un qui tient un salon de coiffure?
Il y a Imbolo, il y a Moukoukoulou, il y a Liweso, il y a je sais pas quoi d'autre. Il y a la centrale de gaz à Pointe-Noire. Le Congo était excédentaire en courant. Maintenant, il est où? Il nous expliquait, le monsieur des grands travaux, j'oublie son nom. Gouverner, c'est prévoir. Ça fait 3 jours que je me lave pas. Pour avoir un filet d'eau, faut se lever vers 4h du matin. Et peut-être en 2 heures, vous pouvez remplir une bassine de 20 litres. Alors, pour se laver, c'est compliqué.
Mais souvent ici, là, ça va parfois 10h et jusqu'à 18h. Bon, à 18h, on peut plus travailler.
Dans de nombreux ménages, on a cessé de faire des prévisions et les soirées de football sont vécues dans la rue. Dimitri Miki de Mungali.
On est obligé de se débattre, d'aller chercher par-ci par-là dans les ciné-foot pour suivre le match. Hein? Sinon, à la maison, vous avez payé l'abonnement, mais bon, ça passe comme ça. Sans pourtant suivre le match, vous êtes obligé de vous donner le rond-point, par exemple, là, les écrans géants pour suivre le match.
Et pourtant, la peine n'est pas à sa fin. La direction de distribution de la société d'électricité annonce la fin de ses délaissages le 5 décembre. Selon la société, les coupures sont équitablement réalisées sur tous les quartiers de Brazzaville pour permettre à tous de bénéficier du peu de courant, c'est-à-dire les 120 mégawatts qui sont actuellement servis. Pour les associations de défense des droits de consommateurs, la rotation des coupures n'est pas équitable. Mermons Babunga est le secrétaire exécutif de l'Association congolaise de défense des droits de consommateurs.
Consommateurs sont beaucoup lésés dans la mesure où il y a plus de jours où ils n'ont pas d'électricité. Quand l'électricité arrive, c'est généralement la nuit où les gens dorment déjà.
Baudouin Mwanda, célèbre photographe à Brazzaville, travaille depuis quelques années sous les coupures de courant dans la capitale. Cette fois-ci, ses photographies nourrissent les réseaux sociaux.
Quand je photographie, je raconte une scène de délestage dans les marchés. Ça ne veut pas seulement dire qu'il n'y a que dans le marché, dans plusieurs cités.
Les Brazzavillois se demandent bien si ces 45 jours sonneront définitivement la fin des délestages. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Tchad, la cour d'appel de N'Djamena a prononcé la semaine dernière la sentence au procès en appel de la jeune fille Awaria contre Haroun Hissen, âgé d'une trentaine d'années, pour détournement de mineurs et séquestration. Le prévenu a été condamné par contumace à 1 an d'emprisonnement ferme. Des réactions avec notre correspondant André Kotmadjingar.
Enlevé en décembre 2015 au sud du Tchad à l'âge de 13 ans, puis déporté à l'est du pays, Awaria a retrouvé ses parents 3 mois plus tard. Une action judiciaire a été enclenchée contre Haroun Hissen, présumé violeur de la petite Awaria pour détournement des mineurs, le 20 avril 2016. Le 30 juin de la même année, le parquet d'instance de N'Djamena a classé le dossier sans suite pour information non constituée. Une décision qui semblait ne pas tenir compte d'une loi sur l'interdiction du mariage d'enfants signée en mars 2015 par le président Déby et qui stipule en son article le 4, je cite, est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA toute personne qui contraint par quelque moyen que ce soit une personne mineure au mariage. Fin de citation. Les parents ont donc fait un appel et après 9 renvois, la cour d'appel a enfin rendu le verdict la semaine dernière par contumace. 1 an d'emprisonnement ferme, une sentence qui est loin de satisfaire la famille de la victime. Saleh Moussa Idriss est le cousin de Awaria.
Pour nous, c'est un verdict au rabais. Nous faisons cette lutte, c'est pas seulement pour cet enfant, mais que ça sert de modèle. Et ça donne aussi le courage à ceux qui se sont tués face à cette impunité de s'élever et de dire non.
La présidente de l'association des femmes juristes du Tchad, Mekombe Thérèse, dénonce la lenteur judiciaire dans ce dossier, alors que la victime faisait partie de la délégation tchadienne à la 71e session des Nations Unies sur le mariage des enfants tenu en 2016 à New York. Les autorités tchadiennes avaient brandi la jeune fille comme trophée pour la lutte contre le mariage forcé au Tchad. Pour la société civile, la justice a été trop complaisante à l'égard de Haroun Hissen.
Ce bourreau-là ne mérite pas seulement 1 an de prison. Il a mis un terme à la scolarisation de cette fille et donc de tels actes doivent être punis à la hauteur du préjudice que les victimes ont subi. Aujourd'hui, je pense que Awaria est une fille maintenant libre. Ce monsieur doit être retrouvé. C'est quelqu'un qui ne doit pas être en liberté. C'est une justice qui a tranché, c'est vrai, mais qui a été trop légère.
Traumatisée, la jeune Awaria se rappelle du moment dur qu'elle a traversé. Elle affirme avoir subi un traitement cruel et dégradant.
Il m'a enlevé pour une destination inconnue. Ils ont attaché mes bras et mes jambes et m'ont jeté dans la voiture. Arrivé à la barrière de Kiabé, ils m'ont détaché et m'ont menacé avec un couteau. Ils m'ont demandé de me taire, sinon ils vont m'égorger. étranger. Ça fait presque 3 ans que l'affaire traîne à la justice. Mais si on ne l'arrête pas, il ne va pas me laisser poursuivre mes études.
Les avocats de la défense accusent les parents de la jeune Awaria d'avoir falsifié son acte de naissance et menacent de saisir la Cour suprême. André Kodmadingar Ndiamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.